Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't
anybody see? Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence. Nous recevons pour ce nouveau carnet de voyage Claude Momet. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons voir que tu as fait le tour de la Gaspésie, donc au Canada bien sûr. Tu voulais boucler le cinquième continent qui te manquait, puisque tu as déjà fait l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie. Ce cinquième continent, comment tu l'as choisi? Pourquoi tu as pris la Gaspésie et le Canada?
Je voyage en vélo depuis que je suis à la retraite, un an sur deux. J'ai voyagé dans les pays chauds d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont devenus des destinations difficiles. J'ai voyagé dans les pays du nord de l'Europe. Il m'est venu naturellement à l'esprit l'idée... J'étais jamais allé en Amérique. Donc, il m'est venu à l'idée d'aller pédaler au Canada. Et mon premier projet, c'était de traverser complètement le Canada en partant de Vancouver. Mais en réfléchissant, en comptant les kilomètres et en réfléchissant, et en allant sur Internet voir un peu des carnets de voyage, ça m'a paru un projet un peu au-delà de ce que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis rabattu sur la Gaspésie, qui est une destination dont on entend souvent parler et qui, dans un premier calcul, donnait à peu près 2200 kilomètres. Donc, c'était tout à fait dans mes cordes, en ajoutant quelques kilomètres par-ci, par-là. C'est un peu le hasard, quoi. Il n'y avait pas une volonté absolue de faire le tour de la Gaspésie au départ.
On verra qu'en fait, tu as fait 2700 km pour le tour de la Gaspésie, à peu près 70 km par jour.
Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ouais.
Ta motivation principale, c'est faire du vélo, donc ça tombe bien parce que tu en faisais vraiment tous les jours. Mais c'est aussi la gestion du quotidien, de pouvoir atteindre une vie simple sans réflexion profonde.
C'est vrai que lorsque je voyage à vélo, en général, je campe. Donc... J'ai une petite tente, j'ai un petit réchaud, j'ai une gamelle, j'ai une cafetière, j'ai du café. Et donc, c'est vrai que je mène une vie extrêmement simple et une vie détachée de tout ce qui fait mon quotidien en France. En France, j'ai encore quelques responsabilités. Je suis, par exemple, président de la Petite Ours, ce qui fait que j'ai des occupations quand même hebdomadaires régulières. Quand je pars en vélo, je laisse tout ça. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les mails, je reste au contact de l'actualité, mais... C'est un contact purement formel, quoi. En fait, je réponds rarement aux mails qui m'arrivent.
Mais tu restais quand même avec ton fidèle portable qui te permettait de... Tu avais pris une carte SIM spéciale pour le Canada et ça te permettait de réserver au fur et à mesure de ton parcours les hébergements.
Ça m'est arrivé deux ou trois fois de réserver, mais en général, je vais un peu au hasard. J'arrive, je demande s'il y a de la place. En camping, en général, il y a toujours de la place. C'est très rare que dans les campings, il n'y ait pas de place. Dans les hôtels ou les motels, ça peut être plus compliqué, en particulier quand il y a des week-ends. Il y a eu le week-end de la fête du travail, par exemple, où même les campings étaient presque complets. Et là, c'est vrai que j'ai utilisé mon portable pour réserver. J'étais dans un camping où il ne me voulait qu'une nuit, donc j'ai utilisé mon portable pour réserver les deux nuits suivantes d'un week-end élargi qui semblait être beaucoup chargé. Mais autrement, non.
Ça t'est arrivé qu'il n'y ait pas de place du tout?
Ça m'est arrivé une fois que le camping soit complet. J'ai un peu marchandé, que j'avais une petite tente, que j'avais un petit vélo. Et finalement, on m'a trouvé un petit coin.
Pour les trajets eux-mêmes, comment tu t'organisais pour avoir les bons trajets, les bonnes cartes?
J'avais trouvé un guide que m'avait envoyé, que j'avais trouvé sur Internet, pardon, les routes vertes du Québec, donc qui décrivait... pour les cyclistes, l'ensemble des routes, ce qu'ils appellent les routes vertes, donc qui peuvent être des pistes cyclables ou des routes aménagées avec une surlargeur un peu comme chez nous, mais une surlargeur beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'elle fait en général entre 1 et 2 mètres. Donc ça, c'était fait pour les cyclistes. Et donc j'avais le détail de l'itinéraire avec des distances portées de l'ordre de 10 à 20 kilomètres, ce qui fait toujours une heure et demie pour un cycliste. Et puis j'avais aussi un guide des campings du Canada, enfin du Canada, du Québec, pardon. Donc... J'avais, avant de partir, en fait, fait un décompte des distances. Et sur ce décompte des distances, j'avais pointé l'ensemble des endroits où je trouvais des campings, des hôtels, des villes, enfin des choses comme ça. Mmh. Ce qui me permettait chaque soir, en fait, de me dire, ben, demain, il fait beau, il fait pas beau. Enfin, en fonction de ça, je suis en forme, je suis pas en forme. C'est plat, c'est montagneux, qui me permettait de dire, ben, 50, 60, 80 kilomètres, je trouve un hébergement. Donc, et puis après, en cours de route dans la journée, ben, je m'arrêtais à 50, 60 ou 80, suivant ce que j'avais vécu, suivant comment, comment j'avais pédalé, suivant mes envies, et ça se faisait comme ça du jour au lendemain, enfin du jour pour le lendemain régulièrement.
J'ai vu sur ton site qu'on laissera en fin d'émission, tu disais que le voyage en vélo serait très très coûteux si tu n'avais pas une vie simple.
Le Canada est un pays à niveau de vie élevé, donc l'hôtel c'est l'ordre de grandeur 80 ou 100 euros la nuit. Quoi. Passer 55 nuits au Canada, bon...
J'en ai passé 47 au camping.
J'en ai passé 47 au camping. Il est quand même à noter que le camping c'est un de mes plus gros budgets dans la mesure où la nuit au camping avec un vélo et une petite tente, c'est entre 20 et 35 euros. Mais c'est des campings super aménagés, c'est-à-dire que l'emplacement de base a ce qu'ils appellent deux services, c'est-à-dire l'eau et l'électricité.
Il faut dire qu'au départ, tu es parti de Montréal et tu avais deux traversiers à prendre, donc des bacs en français. Et ces traversiers, ils n'existaient pas, ce qui fait que tu t'es retrouvé à dormir dans un jardin pour la première nuit.
Montréal, c'est une ville immense. Il faut 30 ou 40 kilomètres pour sortir de la ville. En plus, les ponts sont en chantier. Le pont Champlain était en chantier. Mais bon, finalement, ça s'est fait. En début d'après-midi, j'étais en rive sud. Parce que la ville est en rive nord, j'étais en rive sud. Et quand je suis arrivé au niveau du camping que j'avais repéré, j'ai demandé à un cycliste, il m'a dit, le camping, il est sur une île, là, au milieu du fleuve. Mais il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vous mène, il y a un traversier. On est arrivé au traversier, il n'y avait plus de panneau indiquant les horaires. Il m'a dit, c'est bizarre, mais il ne doit plus être là parce que normalement, on le voit. Mais il m'a dit, il y en a un autre. On a fait 5-6 kilomètres, on a trouvé un autre endroit, un autre embarcadère. Il n'y avait plus de traversier non plus. Alors là, il m'a dit, il m'a laissé, quoi. Ah, il m'a dit, il y a un hôtel là-bas, un hôtel-restaurant peut-être à côté. Donc, je suis allé à l'hôtel-restaurant. On m'a dit, non, il n'en est pas question. Mais on m'a dit, il y a un parking un peu plus loin. Je suis allé voir le parking. On m'a dit, on prend que des camping-cars. On prend que des véhicules en dur. On ne prend pas des campeurs. Bon, il y avait un jardin public. Je me suis arrêté dans le jardin public en me disant, on verra bien. On m'avait dit que c'était interdit de 23h à 7h. Donc, interdit d'y être. Donc, encore plus interdit d'y dormir. Vers 21h, j'étais attaqué par les moustiques. Donc, j'ai monté ma tente. Et à 22h, je dormais. J'étais réveillé par deux cadets, deux jeunes gendarmes à bicyclette qui m'ont dit, monsieur, vous savez. J'ai dit, oui, je sais. Alors, j'ai raconté mon histoire. J'arrivais de France. C'était mon premier jour au Canada. Il fallait que je m'habitue. Mais ils m'ont dit, c'est interdit. Mais j'ai dit, mais je vais plier ma tente et je vais dormir dans mon duvet au bord de la piste cyclable. Alors, ils étaient un peu gênés quand même, parce qu'eux avaient 20 ans. Moi, j'en ai 73, donc
ouais.
Eux étaient jeunes et beaux. Moi, j'étais en tenue légère. Je sortais de ma tente à moitié endormi. Finalement, ils m'ont dit, allez, monsieur, restez là. Mais vous savez, des collègues vont passer après 23 heures, parce que le jardin est surveillé et vous allez être réveillé. Alors, je leur ai dit, mais vos collègues, vous les connaissez. Vous n'avez qu'à leur téléphoner en leur disant qu'il y a quelqu'un qui dort, que vous l'avez autorisé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je n'ai pas été réveillé.
Bon, donc ils ont été compréhensifs.
Je pense, oui.
Tu as eu souvent, comme on peut le voir sur ton site, tu as eu souvent de la pluie, souvent du vent. Une phrase qui m'a marqué, c'est que tu disais que tu as roulé à la même vitesse que le vent.
Le vent, pour le cycliste, c'est très souvent un ennemi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du vent, 3 fois sur 4, il est défavorable. Et j'ai eu des journées entières où j'ai eu le vent de face et où j'ai roulé à une moyenne de 12 km/h. Mais c'était après 2000 km, c'est-à-dire que j'avais une forme excellente et que j'avais une tête aussi excellente. Et donc finalement, ça m'a pas travaillé. Mais j'ai eu une paire de jours où effectivement le vent était favorable. Et si le vent est régulier et s'il va à peu près à la même vitesse que le cycliste, disons entre 15 et 20 km heure, on se déplace...
Sans un bruit.
On se déplace dans un air qui est immobile par rapport au cycliste. Et donc, il n'y a strictement aucun bruit d'écoulement d'air, aucun bruit. Et c'est une sensation extrêmement étonnante, effectivement.
Ouais, ça doit être magique. Les Canadiens ont des phrases incroyables comme « ça fait plaisir ». Et toi, au début, tu ne savais pas trop ce que ça voulait dire.
Alors, ils disent toujours « oui, nous on dit « il n'y a pas de problème ». Eux, nous, on a deux négations, il n'y a pas et problème. Et eux, ils sont positifs, ils disent « c'est avec plaisir ». Ouais, c'est la phrase qu'ils disent quand on remercie quelqu'un parce que on a été servi à table, parce qu'on nous a donné de l'eau, parce que souvent on dit merci, et eux, ils disent « ça fait plaisir, c'est avec plaisir ».
Il y a une autre phrase que tu as trouvée sur les voitures qui t'a un peu étonné, c'était « je me souviens » sur les plaques d'auto.
Sur toutes les plaques d'immatriculation au Québec, il y a inscrit effectivement « je me souviens ». J'ai demandé plusieurs fois, personne n'a été capable de me dire de quoi on se souvenait.
Ouais.
Je pense quand même avec Internet qu'on se souvient que on est francophone on est francophone au Québec dans un monde, le Canada, qui est anglophone. Et je me souviens en particulier de ça.
Donc leur histoire, ils la marquent même sur les plaques de leur voiture.
Et c'est extrêmement étonnant. Les gens au Québec ne se disent pas canadiens, la majorité se disent québécois. La majorité se dit on est différent des Canadiens, on est différent par la langue, on est différent par la culture, on est différent par les chanteurs, on est différent par les écrivains, on est différent, enfin, sous-entendu, on devrait être indépendant, quoi. C'est un peu enfin, le sous-entendu de beaucoup de gens.
Dans ce périple, tu as eu quelques côtes très importantes, tu as eu principalement du plat quand même, et tu as franchi les Appalaches. Une partie de ces Appalaches, tu l'as fait dans un break Chevrolet qu'un Canadien t'a offert pour une côte trop dure.
Depuis le début du voyage, quand je disais que j'allais faire le tour de la Gaspésie, on me disait, oh là là, au fond de la Gaspésie, enfin, dans la partie la plus à l'est de la Gaspésie, il y a beaucoup, beaucoup de côtes, des côtes très dures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des côtes qui sont pas longues. La plus grande altitude que j'ai atteinte, c'est 400 mètres. Donc, ouais. Pour quelqu'un qui vit dans les Alpes, c'est totalement ridicule. Mais par contre, ce sont des côtes qui sont très dures, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé le lacet. Quand il y a une côte, quand il y a une colline, il monte droit. Ah la route monte droit. Et donc, on atteint des pourcentages de 15% et même supérieurs où, avec un vélo chargé, moi, mon vélo chargé dépasse 35 kilos, je suis totalement incapable de pédaler. Et donc, je monte à pied. À la sortie de Percé, par exemple, il y a une côte qui fait 2 kilomètres. J'ai monté les 300 premiers mètres en vélo, j'ai monté le reste à pied. Et pour faire 1700 mètres, il faut 45 minutes quoi, à pied. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de très dur. Alors, pour la dernière côte... dont on m'avait le plus parlé, à un moment donné, j'ai dû faire un petit blocage. Et puis à côté de moi, il y avait un monsieur seul qui avait... ils ont tous des grosses voitures. Donc je suis allé lui dire bonjour. On a bu une bière ensemble parce qu'il avait des bières fraîches. Et puis je lui ai dit, vous savez, demain, la côte me fait peur. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Oui, tu as raison, elle est très dure. Mais j'ai dit, si on pouvait mettre le vélo dans votre break, il m'a dit, il n'y a pas de difficulté. Et il m'a même dit, je ne te laisse pas en haut, je vais te descendre parce que la descente est dangereuse. Et donc, il m'a mené en haut de la côte et en bas de la descente. Il m'a ramené au niveau de la mer. Quoi.
Ouais, bah, tu as trouvé quelqu'un qui prenait soin de toi. Là.
Mais j'en ai trouvé souvent dans mes voyages. En fait, quand on demande à quelqu'un, ça m'est arrivé plusieurs fois en allant à Jérusalem, j'ai demandé 2-3 fois à des gens et la réponse a toujours été positive.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau qui est bien adapté, un morceau de Charlebois, Les ailes d'un ange, où il dit qu'il partira pour Québec.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Québec, en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé belle nuit à Ottawa, en te caressant, en te tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Attention, Toronto. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la baie sur du papier. Je mange des hot dogs mais je bois du thé. Je suis un Satan's Choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux abineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des gâtés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper avec Aline pour que ça pine, avec Thérèse fraise contre fraise. Québec,
Rebonjour, amis auditeurs. Nous sommes toujours avec Claude Momet, toujours dans ce tour de la Gaspésie. Tu as rencontré principalement des gens qui étaient des cyclotouristes et qui venaient, notamment une dame qui venait de Vancouver et qui avait déjà fait 5000 km en 80 jours.
Ouais, c'est une jeune, en fait. Enfin, je dis jeune, elle devait avoir 30 ans, que j'ai rencontrée sur une piste cyclable le long de la rivière Chaudière. Elle était encore en train de démonter son campement et elle avait un problème de tente. Elle avait un mât qui était cassé. Bon, on a discuté un moment, mais elle parlait qu'anglais. Donc, bon, mon anglais est pas très, très riche. Et donc, elle était partie de Vancouver et elle avait vu la neige. Et elle avait eu très, 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 très froid la nuit, enfin, un certain nombre de fois. Et ça m'a un peu conforté dans le fait que j'ai abandonné ce voyage parce qu'effectivement, ça avait l'air d'avoir été très, très, très difficile, même si elle avait l'air, elle, super costaud et super engagée. Enfin, visiblement, rien ne lui faisait peur, mais je pense qu'elle en avait bavé.
Et tu as eu l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un de 60 ans, donc d'un âge beaucoup plus avancé, qui lui aussi venait de Vancouver et prévoyait d'aller à Terre-Neuve en mettant un an.
Lui, il avait coupé le voyage en deux, en fait. Il avait fait la moitié du voyage l'année d'avant et puis il avait eu un problème physique. Donc il s'était arrêté et là, il était reparti de là où il s'était arrêté l'an dernier. Et il était effectivement sur la fin du voyage. Enfin, il était en train de traverser la Gaspésie. Mais lui prévoyait d'aller jusqu'au bout de Terre-Neuve, donc d'aller vraiment, vraiment au bout. Et ce qui m'a étonné, c'est que, bon, on a discuté vélo, bien évidemment, on a mangé ensemble le soir. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en partant, il m'a dit, ben, vu ce que tu fais, parce qu'il m'avait demandé mon âge, ça finit, c'est toujours comme ça. Les gens, c'est une nouveauté de ce voyage, ça ne m'était pas arrivé jusqu'à maintenant. Les gens, quand on avait discuté 5 minutes, ils me disaient, mais si ça vous ennuie pas, vous pouvez me dire votre âge. C'était... Et donc, lui, il a vu que j'avais 13 ans de plus que lui et que, bon, j'avais encore fait un voyage. Enfin, j'étais sur un voyage qui restait tout à fait honnête, quoi. Et donc, il se disait, ben, j'ai un bel avenir devant moi, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit très clairement que, effectivement, tu me montres que je peux encore rouler et je peux prévoir de belles choses, quoi.
Il
allait au bout de Terre-Neuve. C'était le plus à l'est qu'on pouvait faire du Canada. Après, il rentrait en avion. Non, les gens, ils font pas l'aller-retour.
C'est énorme.
L'aller-retour, c'est énorme. Enfin, ça ferait 12 000 ou 13 000 kilomètres.
Tu as eu aussi l'occasion de faire une soirée de gala quasiment avec un couple de Canadiens photographes qui t'avaient offert du saucisson et du pétillant.
On s'est retrouvés dans un terrain de camping. Eux, ils avaient un truc style combi Volkswagen aménagé, donc ils n'étaient pas dans les très très grosses caravanes qu'ont les Canadiens. Et on s'est retrouvé dans un camping où il y avait, comme souvent, une pièce commune où on pouvait manger, enfin une pièce relativement ouverte, mais on pouvait se mettre à l'abri. Et ce jour-là, il pleuvait, donc moi j'étais en train de manger à l'abri, puis ils sont arrivés, et puis on a commencé à discuter, et puis on a sympathisé, en fait. Alors ils sont allés chercher un saucisson, une bouteille de pétillant, et puis on a mangé le saucisson, on a bu la bouteille, et puis on a discuté du Canada, on a discuté de mon voyage, on a discuté de la francophonie, on a discuté de la langue française, on a discuté des élections qui étaient en train d'arriver au Canada. On a discuté beaucoup de choses, en fait.
Ils t'ont même dit que les Français ne défendaient pas assez leur langue. Ça, c'est un leitmotiv qui revient
c'est
au Canada.
C'est un leitmotiv. Ils sont choqués chaque fois que dans la langue française, on utilise un mot anglais. Ils ont toujours une traduction. Et ils écoutent beaucoup TV5 International parce que c'est la chaîne française qui capte. Et ils sont extrêmement choqués d'entendre tous les mots anglais qu'on utilise. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai fait mes études à la fac d'anglais, notre prof d'anglais nous disait en souriant, sous forme humoristique, je vais en France, je vais parler anglais. Pour dire, la langue française est en train de s'angliciser. Enfin, ce que nous, on constate tous les jours, effectivement.
Mais c'est vrai que leur langue est vraiment poétique. Par exemple, les parcs nationaux que tu as traversés, ça s'appelle le parc national du Cotillon. Ou alors le parc de la Pointe du Bic.
Ouais.
J'avais noté aussi qu'il y avait la coulée à Blanchette.
C'est un chemin que j'ai pris pour sortir du parc du Bic. En fait, j'ai fait une quinzaine de kilomètres sur la coulée à Blanchette, qui est un chemin en terre de 50 cm de large qui monte beaucoup, mais bon, qui est effectivement très, très, très joli parce qu'il n'y a aucune voiture, il n'y a que des piétons et des cyclistes, quoi.
Et la pointe du Bic, le parc de la pointe du Bic, du Bic, tu y as passé un bout de temps?
J'y ai passé 3 nuits. J'en ai passé une nuit à l'aller et 2 nuits au retour, en fait. À l'aller, je l'utilisais uniquement pour dormir. Ils avaient, en fait, au milieu du parc, une zone Réservé aux cyclistes, c'est un morceau de pré en fait qui faisait, je sais pas, 5 000 ou 10 000, un hectare, allez, on va dire. Il y avait à côté un petit refuge, donc quelque chose en dur, et c'était réservé aux cyclistes, donc c'était bien, ça s'appelait Bienvenue Cycliste. Quand je suis repassé donc en rentrant de la Gaspésie, j'y ai passé 2 nuits pour avoir le temps de visiter le parc parce qu'il y a des balades à faire à pied tout ça. Et la deuxième nuit, on était 5 cyclistes, donc il y avait deux couples en même temps que moi. Et donc, il y avait 3 tentes et 5 vélos.
Et il t'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Tu as vu 2 biches à 3 pistoles dans ce parc du Bic.
Oui. Au petit matin, en fait, parce que je dormais très, très tôt, en fait. À 8h30, 9h, j'étais endormi. Et donc, le matin, j'étais réveillé à 5h, 5h30. Et à la fin du voyage, à 5h30, il faisait encore nuit, quoi.
Notez que tu avais vu, en animaux, tu avais vu des écureuils, des marmottes, un chevreuil, un porc épic, des phoques à la pointe des épinettes. Et est-ce que tu as pu entendre respirer les baleines à l'île verte?
Non. L'endroit où on pouvait aller voir les baleines, c'était à Percé, mais c'était tellement touristique qu'en fait, j'y suis pas resté. J'ai même pas cherché à savoir si c'était, s'il y avait des choses organisées ou quoi. Ça, j'ai fait un petit blocage intellectuel, j'ai envie de dire. Hein, j'avais envie de rester calmement. Et c'est vrai que là, c'était un peu la Côte d'Azur, quoi. La rue centrale était pleine de monde. Enfin, les restos, les machins. Enfin, et ça m'a pas tenté, quoi.
On va laisser le site sur lequel on peut retrouver tous les détails. C'est jour par jour.
On peut retrouver tous les détails de ce voyage et de bien d'autres voyages.
Parce que de tous tes voyages, c'était le septième.
C'était le septième sur un site qui s'appelle tout simplement Claude à vélo en un seul mot.
Tu as un millier de photos, non, pour ce voyage?
À peu près, oui. Entre l'appareil photo et le téléphone, il y en a à peu près 1 000, effectivement.
Merci Claude d'être venu à notre micro.
Merci de me recevoir.
Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see?